Donc pour la prédication de la parole, chers frères et sœurs, à ouvrir votre Bible dans la seconde épître de Paul à Timothée, 2 Timothée, seconde épître de Paul à Timothée. Quand on regarde autour de nous, on peut voir que tous les efforts que l'homme fait, on pourrait dire, sont pour lui apporter un peu plus de repos. On a fait beaucoup d'efforts pour automatiser pas mal de choses. On a inventé des machines maintenant à tout faire. Des machines à laver, des machines à rincer, des machines à... Il y en a qui espèrent un jour voir l'arrivée d'une machine à repasser automatiquement, qui prend le linge depuis la machine et puis le repasse, le range dans le placard. Et on compte vraiment, enfin, on a beaucoup fait de choses pour améliorer un petit peu les conditions de l'homme et pour que la machine puisse travailler, que l'homme puisse un petit peu plus se reposer. Et on ne compte plus les magazines et les émissions qui existent aussi sur l'amélioration du confort, de notre confort. Dans nos habitations, la qualité de la cuisine, il y a des choses maintenant pour bien manger, etc., acheter bio, faites ceci, cuisiner soi-même, et toutes ces choses-là. Donc la cuisine est devenue maintenant un art extrêmement sophistiqué. Et puis, on a des instituts de soins, de beauté, de bien-être qui poussent maintenant comme des champignons. Tout est fait pour le repos, le confort et le bien-être. Et parfois, les gens parlent en disant... il faut que je prenne du temps pour moi, un petit peu de temps pour à consacrer à moi-même. Et dans cette lettre que Paul écrit à Timothée, on est dans une atmosphère tout à fait différente. On a l'impression d'être loin, très loin ici, de nos considérations de confort que l'on vit aujourd'hui dans notre société. D'ailleurs, l'apôtre Paul parle dans le troisième chapitre, il parle à Timothée en lui parlant des derniers temps, c'est-à-dire les temps dans lesquels nous sommes, et pour lui dire que dans ces derniers temps, les hommes aimeront un certain nombre de choses, et il dit qu'ils aimeront les plaisirs plus que Dieu. Et donc, la recherche de toutes ces choses que nous venons de citer, ici plus que Dieu. Il dira aussi qu'ils ont l'apparence de la piété, mais qu'ils en renieront ce qui en fait la force. Et dans cette même lettre, qui est la dernière lettre que l'apôtre Paul probablement est écrite ici, elle est adressée, cette lettre, bien sûr, à Timothée personnellement. On a vu ça mardi soir. C'est pas une lettre qui est adressée à une église, c'est une lettre qui est adressée à une personne particulièrement. Et il va faire donc à Timothée une longue liste de recommandations liées justement au fait que on est dans les derniers temps. Et ces recommandations qu'il fait à Timothée ne sont pas du tout dans l'axe dans lequel le monde nous dirige à rechercher, à améliorer notre condition, nos situations. Mais elles sont assez particulières. Et si on regarde, on lit bien cette épître, on voit que Paul fait un appel particulier à Timothée dans le domaine de la souffrance. C'est exactement l'opposé. Il dit, c'est comme s'il disait à Timothée, « Timothée, on est dans les derniers temps, il faut que tu souffres. Il faut accepter la souffrance. » Si vous regardez au chapitre 1, déjà, il avait parlé de la souffrance au verset 8, il dit, « Souffre avec moi pour l'Évangile. » Si vous regardez au chapitre 2 et au verset 8, chapitre 2 et au verset 3, il dit « Souffre avec moi comme un soldat de Jésus-Christ ». Et puis un peu plus loin, vers chapitre 4, verset 5, il dit « Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances ». Fais l'œuvre d'un évangéliste et remplis bien ton ministère. Lorsque l'apôtre Paul écrit cette lettre, il n'est pas dans un salon confortablement assis. Il est en prison et probablement enchaîné, parce que si vous regardez au chapitre 2 et au verset 9, il dit « L'évangile pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Et il est en train d'attendre le temps de son exécution. Il le dit lui-même. Il dit, pour moi, je sers déjà de libation et je sais que le moment de mon départ approche. Donc c'est un apôtre qui vit dans des circonstances extrêmement particulières et particulièrement difficiles. On est à l'époque de l'empereur Néron. Et les chrétiens sont persécutés à cette époque. Donc si vous essayez de recaler un petit peu les dates, cet épître a été écrit environ en l'an 67, et il me semble que peu de temps avant, ou après, je sais plus, l'empereur Néron est mort. Donc ici, c'est une période où les chrétiens étaient persécutés. Et l'apôtre Paul exprime plusieurs fois qu'il a même été abandonné par plusieurs dans cet épître. Il le dit au chapitre 2, verset 15, par exemple. Il dit « Tous ceux d'Asie », chapitre 2, verset 15. Je ne suis pas dans le bon... je ne sais pas regarder la bonne référence ici. Chapitre 2 et au verset... Où il parle de ceux qui l'ont abandonné, plutôt chapitre 1, verset 15, il dit, tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné, entre autres Phygèle et Hermogène. Chapitre 4, verset 10, par exemple, il dit, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Chapitre 4, verset 16, il dit, dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit point imputé. Donc c'est un apôtre qui vit une circonstance particulièrement difficile. Et ce à quoi il appelle Timothée ici, c'est à le suivre dans le fait d'endurer la souffrance. Il est tout seul, il désire voir Timothée. Et il lui dit, souffre avec moi. Nous sommes dans les derniers temps, Timothée, et il faut que tu endures la souffrance. Alors, le titre de notre méditation ce matin, c'est endurer les souffrances de l'Évangile. Endurer les souffrances de l'Évangile. C'est vrai que notre société, peut-être confortable, nous fait oublier un petit peu rapidement que, avec l'Évangile, bien souvent, arrive un lot de souffrance. L'apôtre Paul, quand il écrit l'épître aux Corinthiens, il dit qu'il y a une opportunité qui lui est donnée à Éphèse, mais que les adversaires sont nombreux. Et l'évangile a toujours eu de nombreux adversaires. Alors, faut pas que ce petit intervalle de temps sympathique, on pourrait dire, que nous vivons, nous fasse oublier cela. Et ici, l'apôtre encourage vraiment Timothée à endurer des souffrances. Nous allons lire donc quelques versets au chapitre 8, dans lesquels il va appeler Timothée à endurer la souffrance, mais il va lui donner quelques motivations pour endurer cette souffrance. Donc 2 Timothée chapitre 8, et regardez à partir du verset 2 Timothée chapitre 2 et à partir du verset 8, excusez-moi, 2 Timothée chapitre 2, et nous allons regarder à partir du verset 8. Il dit, souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ, avec la gloire éternelle. Cette parole est certaine, si nous sommes morts avec lui, nous vivrons avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Et que le Seigneur nous accorde sa grâce et qu'il illumine nos cœurs pour que nous puissions saisir sa parole. Donc, endurer les souffrances de l'Évangile. C'est ce à quoi l'apôtre Paul encourage celui qu'il appelle son fils, son enfant dans la foi. Et cet encouragement est aussi pour nous. Nous sommes appelés à endurer les souffrances parfois qui accompagnent même la propagation de l'Évangile. Et l'Évangile est, comme quelqu'un l'avait dit, résolument conflictuel. En général, quand l'Évangile pénètre quelque part, Jésus l'avait dit, hein, il avait dit, voilà, quand il vient, c'est pour semer l'épée et la division. Hein. Ça veut dire que quand l'Évangile rentre, eh bien, l'Évangile tranche de foi dans les foyers. Et cela crée bien souvent des oppositions. Alors, comment est-ce que l'apôtre Paul encourage le jeune Timothée qui est craintif, qui a peur, peut-être voyant les souffrances dans lesquelles l'apôtre Paul vit, qui se trouve peut-être découragé. Comment est-ce que l'apôtre Paul l'encourage à endurer les souffrances de l'Évangile? Premièrement, on peut voir que pour endurer les souffrances de l'Évangile, il faut se souvenir de Jésus-Christ. Il dit « Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts, selon mon évangile. » La première source de motivation ici que Paul donne, c'est de maintenir vivant le souvenir d'une personne. Et cette personne, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Souviens-toi de Jésus-Christ. Et souviens-toi d'abord que Jésus-Christ t'a sauvé. Ce nom, Jésus veut dire le sauveur. Et donc, ce souvenir de Jésus-Christ, c'est ce souvenir du salut qui a été offert et gratuitement par Jésus-Christ. Et sans doute, c'est la première chose que l'on oublie quand on est découragé et que les souffrances semblent parfois trop difficiles, trop dures à supporter. On oublie Jésus-Christ et l'œuvre expiatoire qu'il a accomplie pour nous. On oublie Jésus-Christ et le salut qu'il a opéré en notre faveur. Si vous prenez l'exemple du peuple d'Israël dans le désert, ce peuple qui murmurait constamment, eh bien, à la moindre difficulté, la moindre souffrance était pour eux une occasion de se plaindre. Eh bien, lorsque le psalmiste résume l'attitude de ce peuple dans le psaume 106, il dit à plusieurs reprises, mais à un moment donné, il dit au psaume 106, verset 21, « Ils oublièrent Dieu leur sauveur. » Ils ont oublié Dieu en tant que Dieu sauveur, celui qui les a délivrés de l'Égypte, qui a fait de grandes choses pour eux en Égypte. Et notons ceci, hein, ils ont oublié, il n'a pas dit ils oublièrent Dieu, mais ils oublièrent Dieu leur sauveur, celui qui les a délivrés. De même, Paul attire ici l'attention de Timothée sur le fait qu'il faut garder vraiment à l'esprit la personne et l'œuvre salvatrice de Jésus-Christ. Il avait déjà fait mention de ça au chapitre 1 et au verset 9, par exemple, il parle de Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause des œuvres, mais selon son propre dessein, selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels, et où il évoque ici le salut de Dieu. Et cela, si l'apôtre Paul le dit à Timothée, c'est parce que c'est un encouragement dans les temps difficile. Et c'est un encouragement, c'est une motivation pour pouvoir supporter les souffrances. Se souvenir de Jésus-Christ, de sa mort, de sa résurrection, implique premièrement d'avoir été mis au bénéfice de cette mort et de cette résurrection. Il n'est pas dit de se souvenir simplement de ce que Jésus a fait. Il n'est pas dit de se souvenir des choses concernant Jésus-Christ, mais de se souvenir de Jésus-Christ lui-même. Et cela présuppose une relation, hein, ici avec Jésus-Christ. Donc on ne peut pas se souvenir de Jésus-Christ si on ne connaît pas personnellement Jésus-Christ. On ne peut pas se souvenir de Jésus-Christ et du salut qu'il offre si on n'a pas été mis au bénéfice de ce salut. Donc la première chose, si vous êtes dans cette salle, à faire si vous ne connaissez pas Christ, c'est de venir à lui, de vous repentir de vos péchés, de croire en sa parole. On ne peut pas se souvenir de Jésus en tant que sauveur s'il n'est pas véritablement notre sauveur. Donc l'apôtre Paul est en train de dire ici à Timothée de se tu dois te souvenir de Jésus-Christ qui t'a sauvé. Les enfants d'Israël, lorsqu'ils ont été délivrés du pays d'Égypte, ils ont eu une crainte, une peur bleue quand ils ont vu l'armée de Pharaon arriver. Et Moïse leur dit, stop, c'est pas la peine de crier, c'est pas la peine de pleurer. Avancez et regardez la délivrance que l'Éternel opérera pour vous. Et puis l'armée de Pharaon que vous voyez, vous ne la verrez plus jamais. Et cette armée est engloutie. Et puis après, la Bible dit que le peuple éclate dans un chant de louange. Dans Exode chapitre 15, il est dit, « Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel. Ils dirent, « Je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. » C'est lui qui m'a sauvé. C'est parce que ils ont expérimenté ce salut de Dieu qu'ils peuvent exprimer cette reconnaissance. C'est parce que l'on a expérimenté le salut de Dieu qu'on peut se souvenir de ce salut et que cela peut être un encouragement pour chacun lorsque on se trouve dans une situation difficile. Et l'apôtre Paul ramène l'esprit de Timothée sur Jésus-Christ. Il dit, Timothée, il faut que tu endures, il faut que tu endures ces souffrances. Elles sont liées à l'évangile, inévitablement. Mais pour les endurer, il faut que tu te souviennes de Jésus-Christ. Souviens-toi de Jésus-Christ qui t'a sauvé. Souviens-toi que Jésus-Christ aussi a souffert. Et quand il parle de Jésus-Christ, il dit, souviens-toi de Christ ressuscité des morts. Cela fait référence à l'œuvre de Christ, à la croix, sa mort et sa résurrection, à ses souffrances quand il a vécu sur cette terre, les souffrances, les meurtrissures qu'il a subies, et la Bible dit par lesquelles nous sommes guéris. Christ a connu le chemin de la souffrance. Et la Bible dit même que dans Ésaïe chapitre 53 que c'était le plaisir, il a plu à Dieu de briser Jésus-Christ par la souffrance. C'est ce que Ésaïe 53 dit. Donc c'est le chemin que Dieu a choisi même pour Jésus-Christ. Mais on peut encore lire dans ce que le Saint-Esprit atteste dans 1 Pierre chapitre 1 verset 11 par là. Écoutez, je vais lire. Il dit, les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation, voulant sonder les époques et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Donc ici, quand on parle de Jésus-Christ, il est question de ses souffrances et de sa gloire. Dieu a choisi ce chemin-là pour Jésus-Christ. La souffrance d'abord, et puis ensuite, la gloire. Et donc, la Bible affirme aussi que les souffrances de Christ nous montrent quel chemin nous, en tant que chrétiens, par quel chemin nous serons aussi appelés à passer. Et c'est l'apôtre Pierre lui-même qui le dit aussi. Il dit, en effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, donc c'est exactement la situation de l'apôtre Paul ici, il dit, si vous supportez la souffrance sur ce que vous faites, ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés. Parce que Christ aussi a souffert pour vous. Donc vous souffrez, il faut vous souvenir de Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ aussi a souffert pour vous. Et il ajoute, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Et donc Paul dit à Timothée, souviens-toi que Jésus-Christ a souffert aussi pour toi. Il t'a laissé un exemple afin que tu suives aussi ses traces. Et la parole nous dit de nous souvenir en tant que chrétiens que Jésus-Christ a souffert aussi pour nous et qu'il nous a laissé un exemple afin que nous suivions ses traces. Il ne faut pas se tromper de souffrance. Il dit que ceux qui souffrent ici parce qu'ils ont, qui subissent de mauvais traitements, parce qu'ils ont commis des fautes, ça c'est une chose, c'est un type de souffrance. Il ne parle pas de ce type de souffrance, mais il parle de ceux qui souffrent pour la cause de l'évangile, ceux qui souffrent parce qu'ils sont chrétiens, ceux qui souffrent parce qu'ils veulent vivre pieusement pour Jésus-Christ. Il dit que cela doit être regardé comme une grâce devant Dieu. C'est une grâce devant Dieu, dit l'apôtre Pierre. Et donc ce souvenir que Christ a souffert, c'est ce souvenir qu'il ne peut en être autrement pour ses disciples. Et d'ailleurs, lorsque Jésus, vous rappelez, dit à un moment que le serviteur n'est pas plus grand que ce maître, et il est en train, il le dit dans le contexte de la difficulté et des afflictions. Quand il dit que le serviteur n'est pas plus grand, Jean chapitre 15, verset 20, il dit qu'on peut pas, on va pas mieux traiter les serviteurs que le maître. S'ils ont écouté le maître, ils écouteront le serviteur. Mais s'ils ont persécuté le maître, ils persécuteront aussi le serviteur. C'est un principe que le Seigneur établit. Et donc l'apôtre Paul dit, souviens-toi de Jésus-Christ qui t'a sauvé. Souviens-toi de Jésus-Christ, que Jésus-Christ aussi, je pense, a souffert parce qu'il fait référence à sa mort et à sa résurrection. Mais cela peut vouloir dire aussi, souviens-toi que Jésus-Christ vit à jamais parce qu'il est aussi ressuscité. Et Paul dirige les pensées de Timothée sur la résurrection de Christ d'entre les morts. Christ est vivant éternellement. Et cela est un encouragement pour les chrétiens. Quand nous approchons de la Pâque, nous chantons souvent Jésus-Christ vit. Mais c'est pas à Pâque seulement qu'on doit chanter cela. On doit le chanter tout au long de notre vie. Parce qu'il est vivant. Cela est un encouragement et une motivation à supporter la souffrance. L'apôtre Paul le dit très clairement dans 1 Corinthiens 15, qui est le grand chapitre sur la résurrection. Et il dit, il parle de l'importance de la résurrection et le lien qui existe entre cette résurrection de Christ, cette réalité de la résurrection de Christ, et les privations qui sont consenties, les souffrances qui sont endurés. Et donc, on peut regarder 1 Corinthiens 15, verset 30. Il dit ceci, 1 Corinthiens 15 et verset 30. 1 Corinthiens chapitre 15 et au verset 30. L'apôtre Paul dit, « Et nous, pourquoi sommes-nous à toute heure en péril ? Chaque jour, je suis exposé à la mort. Je l'atteste, frère, par la gloire dont vous êtes pour moi le sujet en Jésus-Christ notre Seigneur. Si c'est dans des vues humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m'en revient-il? Si les morts ne ressuscitent pas, alors mangeons et buvons, car demain nous mourrons. » Il est en train de dire ici, n'oublie pas Timothée, Christ est vivant, il est ressuscité. Et donc tout ce que nous supportons, ça n'est pas vain, parce que il vit à jamais. Et nous aussi, nous allons vivre avec lui. Il règne aussi à jamais. Ici, qu'il est issu de la postérité de David, de la descendance royale, celui que Dieu a choisi. C'est le Messie qui a été promis. Et cela fait quelque part ici référence à Jésus en tant que roi. Il règne, il reviendra un jour, il régnera de manière extrêmement visible, mais il règne à tout jamais. Donc il est vivant, et non seulement il est vivant, mais il règne. Et c'est ce que l'ange avait dit à Marie, il dit, il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Celui qui était, qui est et qui vient, eh bien, il régnera éternellement. Et c'est ce Dieu-là que tu sers, Timothée. Et il ne faut pas avoir peur des souffrances parce que Jésus-Christ est ressuscité. Il vit à jamais et il règne à jamais. Et cela doit être pour toi un encouragement. Quand tu vois arriver la souffrance, les difficultés, les afflictions à cause de l'évangile, souviens-toi de Jésus-Christ qui t'a sauvé. Souviens-toi que Jésus-Christ a souffert. Souviens-toi que Jésus-Christ vit éternellement. Souviens-toi que Jésus-Christ règne éternellement. Le premier pas, chers frères et sœurs, pour endurer les souffrances de l'évangile est de se souvenir de Jésus-Christ, de son salut, de ses souffrances, de sa mort, de sa résurrection, de son exaltation et de son règne. Les regards sur Jésus, telle doit être la disposition ici de l'enfant de Dieu au sein de la souffrance. Endure, dit Paul à Timothée, les souffrances en te souvenant de Jésus-Christ, issu de la postérité de David et ressuscité d'entre les morts. Deuxièmement, ici, on pourrait dire que l'apôtre oriente sur une deuxième source de motivation Timothée. Il lui dit pour endurer. Il dit on revient donc à 2 Timothée, ici, 2 Timothée, chapitre 2. Regardez au verset 8, je relis. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur, mais la parole de Dieu n'est pas liée. Et deuxièmement, on pourrait dire ici que Paul dit à Timothée en substance que pour endurer les souffrances de l'évangile, il faut se souvenir de la puissance de l'évangile. Il dit, je suis lié, mais la parole de Dieu n'est pas liée. Ici. Donc c'est une pensée que tu dois méditer aussi. Je suis lié même comme un malfaiteur, mais on ne peut pas lier la parole de Dieu. Le sort de l'évangile n'est pas lié au sort des messagers de l'évangile. Il est naturel, parfois, pour le cœur humain de lier la personne avec son message, souvent. Hein. Et on pense, en faisant disparaître la personne, on fait disparaître aussi le message. C'est comme ça que ça marche souvent. Hein. Il suffit de couper la tête à ceux qui sont à l'origine de certains mouvements, quelques fondateurs, pour que, parfois, le mouvement s'écroule de lui-même. Mais dans l'évangile, eh bien, il n'y a pas de ce type de lien entre le message et le messager. Son sort n'est pas lié, le sort de l'évangile n'est pas lié au sort de celui qui porte l'évangile. Et c'est ce que Paul dit premièrement ici à Timothée. Je suis lié comme un malfaiteur, mais la parole de Dieu n'est pas liée. Et fort heureusement, parce que ça voudrait dire que dès que le serviteur ne parle plus, eh bien, la parole, elle est bloquée. La Bible dit que, on l'a chanté tout à l'heure, hein, si les hommes se taisent, les pierres vont crier. Hein, et ce que Jésus avait dit. Donc, la parole est libre. L'évangile est libre. C'est la parole de Dieu. Et son sort n'est pas fixé au sort des messagers. Elle ne s'éteint pas, cette parole, avec l'extinction des messagers. Elle ne souffre pas avec la souffrance de ces messagers. De même, elle n'est pas embellie, l'évangile, la parole de Dieu n'est pas embellie par le succès du messager. L'évangile, c'est la parole de Dieu. Et elle n'est pas, elle peut pas, parfois il y a des gens qui nous font miroiter tous les grands personnages, enfin, quelques grands personnages, qu'ils soient du milieu showbiz ou bien du sport, pour dire, voilà, un tel s'est converti. Hein. Et comme si cela voilà va éclairer, va apporter une espèce de valeur à l'évangile, parce que si eux se sont tournés vers l'évangile, c'est que l'évangile a de la valeur. C'est pas dans ce sens-là que ça va. Hein. L'évangile, c'est la parole de Dieu. Et l'évangile trouve sa valeur dans le fait qu'elle est la parole de Dieu. Et elle n'est pas liée parce qu'elle est là, parce que c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est pas liée car elle est de Dieu, elle est indestructible. On peut pas l'arrêter, on peut battre, tuer le messager, on n'arrêtera jamais la progression de la parole de Dieu. Et vous vous souvenez de ce que Gamaliel avait dit à l'époque quand il y avait eu cette arrestation. Regardons ensemble ce texte dans Actes chapitre 5. Et je trouve que c'est une parole extrêmement sage, hein, ce que Gamaliel a dit ici dans le livre des Actes. Actes chapitre 5 et au verset 33. Vous savez, les membres du Sanhédrin veulent arrêter Pierre et les apôtres, les empêcher de parler au nom de Jésus-Christ, les empêcher de propager ce message de l'évangile. Actes chapitre 5. Et il se lève un homme, Gamaliel, qui vient avec une parole d'une extrême sagesse. Actes chapitre 5 et au verset, je pense que j'ai bien noté, Actes chapitre 5, verset 33, il est dit, furieux de ses paroles, il voulait les faire mourir. Donc il voulait faire mourir, les membres du Sanhédrin voulaient faire mourir Pierre et les apôtres.
Verset 34, « Mais un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, estimé de tout le peuple, se leva dans le Sanhédrin et ordonna de faire sortir un instant les apôtres. Puis il leur dit, « Hommes israélites, prenez garde à ce que vous voulez faire à l'égard de ces gens. » Et puis il va faire un petit rappel historique. Car il n'y a pas longtemps que parut Teudas, qui se donnait pour un quelqu'un auquel... et auquel se rallièrent environ 400 hommes. Il fut tué, et tous ceux qui l'avaient suivi furent mis en déroute et réduits à rien. Son mouvement a disparu. Après lui parut Judas le Galiléen, à l'époque du recensement. Et il attira du monde à son parti. Il périt aussi, et tous ceux qui l'avaient suivi furent dispersés. Et maintenant, voilà la leçon qu'il tire. Je vous dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Il dit que la puissance du message se trouve dans celui qui est à l'origine du message. Il dit, si ça vient de Dieu. La puissance de l'œuvre se trouve dans celui qui est à l'origine de l'œuvre. Si ça vient des hommes, la puissance de l'entreprise se trouve dans la personne qui est à l'origine de cette entreprise. Et il dit que si c'est humain, ça va se détruire tout seul. Mais si c'est divin, c'est pas la peine de vous battre contre. Vous n'y pourrez rien. On n'arrêtera pas l'évangile parce que ça vient de Dieu. C'est ce que l'apôtre Paul comme ça qu'il essaie d'encourager Timothée. Il dit, Timothée, n'oublie pas, je suis lié, c'est vrai, mais nous sommes des messagers. Il dit, la parole de Dieu, elle n'est pas liée parce qu'elle vient de Dieu. Elle est indestructible. Sa puissance, sa grandeur, sa valeur est liée à celui qui en est l'auteur, Dieu lui-même. Et puis je crois qu'en substance aussi, quand il dit que la parole de Dieu n'est pas liée et qu'il faut donc accepter endurer la souffrance pour la cause de cette parole, la cause de l'évangile. Il dit en substance aussi que l'évangile se propage non pas malgré la souffrance, non pas en dépit de la souffrance, mais par la souffrance aussi. Que l'évangile se propage par la souffrance et les afflictions. Ça me fait penser à un passage de l'apôtre Paul où il disait que c'est par beaucoup de tribulations qu'il vous faut rentrer dans le royaume de Dieu. L'évangile se propage aussi par la tribulation. C'est exactement ce que Paul avait dit, étant déjà à Rome, en prison, à l'église de Philippe. Philippiens 1, chapitre 1, verset 12 et 14, il dit, « Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé, c'est-à-dire les souffrances, l'emprisonnement, les liens, les chaînes qu'il a subies, il dit, je veux que vous sachiez que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'évangile. Les souffrances ont contribué au progrès de l'évangile. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. Et la plupart des frères dans le Seigneur encouragés par mes liens. Vous voyez ici, hein? Mes liens ont contribué au progrès de l'évangile, ici à Rome dans le prétoire, mais aussi chez les autres. Ils sont encouragés par mes liens, l'apôtre Paul dit ici. Dieu a utilisé ces choses pour qu'ils soient encouragés et ils ont ainsi plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. On peut penser parfois que la liberté qu'on peut connaître dans un pays nous donne la facilité pour porter la parole. Mais on voit dans beaucoup d'exemples et dans l'histoire de l'Église que c'est bien souvent la difficulté qui a été le principal vecteur de la propagation de l'Évangile. Et on connaît cette fameuse phrase des chrétiens du 1er siècle qui disait que le sang des chrétiens, c'est la semence même de l'Église. Ils disaient, vous nous tuez, mais plus vous nous tuez, plus l'Évangile se répand. Et l'apôtre Paul dit ici que aux Philippiens que mes liens, au contraire, n'ont pas freiné la propagation de l'évangile. Au contraire,
ça a contribué à ce que l'évangile se propage. Et donc, non seulement l'évangile n'est pas lié, mais l'évangile s'appuie même sur les liens pour se propager. L'évangile transforme un obstacle en tremplin. La prison de l'apôtre Paul devient un lieu de prière, un lieu de propagation de l'évangile. Quand l'évangile pénètre quelque chose, il le transforme ici. L'évangile se joue des liens, des prisons, des interdictions, des menaces, des exécutions. L'évangile n'est pas lié de l'apôtre Paul. Et même l'évangile se sert des obstacles pour se propager parce que c'est la parole de Dieu. Et donc c'est pour cela que l'apôtre Paul recommande à Timothée de prendre sa part de souffrance de l'évangile. Tous ces emprisonnements de Paul, tous ces procès, était pour stopper, n'est-ce pas, le progrès de l'évangile. Chaque fois que les hommes arrêtent et mettent en prison, c'est pour empêcher le progrès de l'évangile. Et malgré cela, l'évangile s'est propagé. La première dispersion qu'il y a eu dans l'église primitive, ici, c'est parce que les hommes ont subi de la part des juifs, de la persécution. Eh bien, ça les a propulsés, dispersés à l'extérieur. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, chacun a commencé à témoigner là où il était. Et l'évangile s'est ainsi propagé. Et donc, ici, parfois, nous pouvons prier. Oui, nous pensons, quand nous pensons à ceux qui sont persécutés, que Dieu les délivre de la persécution. Et je me demande si ceux qui sont persécutés ne prient pas pour que nous, dans nos pays de liberté, nous ayons un peu de persécution, pour que l'évangile se propage. Parce qu'on voit quand même combien l'évangile, même dans ces milieux persécutés, combien l'évangile se propage. Parce que l'évangile n'est pas lié. La parole de Dieu n'est pas liée. Et cela doit nous encourager de savoir qu'elle n'est pas liée, que même plus que cela, Dieu peut utiliser les liens pour, comme support même pour la propagation de l'évangile. Troisième source de motivation. Je vous rappelle la première, se souvenir de Jésus-Christ. Deuxièmement, se souvenir de la puissance de la parole de Dieu. Et troisièmement, pour endurer les souffrances de l'évangile, il faut se souvenir des desseins bienveillants de Dieu. Regardez 2 Timothée, encore une fois, chapitre 2 et au verset 10, ce que l'apôtre Paul dit ici. 2 Timothée, chapitre 2. Et au verset 10, il dit « C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ, avec la gloire éternelle. » Voilà, c'est un troisième axe de méditation que l'apôtre Paul propose ici à Timothée, pour l'aider à accepter les souffrances et à endurer les souffrances de l'Évangile. Il donne ici la raison pour laquelle il supporte toutes ces souffrances, ces chaînes, cette solitude, cette injustice des hommes. Il dit c'est à cause des élus de Dieu et de leur salut. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. C'est un axe vers lequel nos pensées ne se tournent pas souvent. Paul aurait pu donner ici beaucoup d'autres causes pour lesquelles il souffre, et qui seraient des justes causes. Mais ici, il choisit d'orienter la pensée de Timothée vers le dessein de Dieu, vers l'élection, vers les élus. Et c'est là qu'il dit trouver une source aussi d'encouragement, ici. Il dit à Timothée que le salut de ceux que Dieu a choisis est une cause digne de toutes les souffrances et de toutes les privations. Il vaut la peine de souffrir pour conduire au salut ceux que Dieu a élus. La Bible enseigne que les élus le sont dès avant la fondation du monde, Éphésiens chapitre 1 et au verset 4. Je crois qu'on a lu cela la semaine dernière. Je vais juste le relire. Il dit « En Dieu, en lui, en Jésus-Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être des enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Mais la Bible nous dit aussi que ceux que Dieu a choisis, ceux qu'il a élus, doivent entendre le message de l'Évangile. Parfois, on peut dire, mais s'ils sont élus, pourquoi est-ce qu'il faut prêcher la parole? Dieu a choisi les élus, mais il a choisi le moyen par lequel aussi ils doivent parvenir à ce salut. Ils doivent croire pour avoir la vie éternelle. C'est ce que Paul dit ici. Il dit, je supporte cela à cause des élus, afin qu'eux aussi, c'est-à-dire pas moi seulement, mais eux aussi, ils obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ. C'est ainsi que Dieu a prévu de les sauver. Comment donc invoqueront-ils, disait-il en Romains, celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui qu'ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et donc la parole doit être prêchée, et parfois elle doit être prêchée dans la souffrance, ici. Et l'apôtre Paul dit, et je subis cette souffrance parce que je sais que Dieu a choisi des hommes et des femmes, qu'il les a élus dès avant la fondation du monde, que c'est son peuple. Et cela m'encourage parce que je sais que mes souffrances ne seront pas vaines. Lorsque Paul arrive à Corinthe, vous vous rappelez, dans Actes chapitre 18, il est un petit peu découragé. Et il dira plus tard aux Corinthiens, quand je suis arrivé chez vous, c'était dans un sentiment de crainte et de grand tremblement. Et il a un songe, quoi. Enfin, le Seigneur Jésus lui parle et lui dit, Paul, ne crains point, ne te tais point, mais parle. Et quelle raison il lui donne? Parce que j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Le peuple de Dieu existe déjà dans cette ville. Paul ne pouvait pas le voir, mais Dieu lui dit qu'il existe déjà ici. Et c'est parce qu'il existe, ce peuple, qu'il peut savoir que son travail ne sera pas vain. Et qu'il peut souffrir, et qu'il peut se réjouir comme il le fait ici. J'ai participé il y a quelques temps dans une distribution dans la région de Bordeaux, et un des frères responsables avec qui je faisais la distribution me dit... On est en train de parler du nombre de traités que l'on distribuait et puis de peu de personnes qui les gens même repoussent un peu. Et il me dit, nous cherchons ici ces quelques personnes que Dieu a choisies. Et ça m'a encouragé. Il dit, ce qui encourage, c'est de savoir que Dieu, on les a pas encore vus, mais on sait que Dieu a choisi des personnes. Et nous sommes là pour cela. Alors c'est à tout le monde qu'on distribue, bien entendu. Mais, Et on prêche l'évangile à tout le monde. Mais ici, l'apôtre Paul dit que je sais que Dieu s'est choisi un peuple. Et je sais que ce peuple ne pourra accéder au salut que par la prédication de la parole. Parce qu'il a plu à Dieu de sauver les hommes par la prédication de la parole. Et il dit, voilà pourquoi je prêche. Voilà pourquoi je souffre même quand je pense à ceux que Dieu a choisis. L'œuvre ne sera pas vaine, les souffrances ici ne seront pas inutiles, car le peuple existe déjà par le fait que Dieu l'a élu dès avant la fondation du monde. Et donc, la réalité de cette élection ne remplace pas l'œuvre humaine de la prédication, mais elle inspire même, on pourrait dire, ici, cet effort. Et l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 10, n'est pas avec les bras croisés quand il parle de son travail. Écoutez ce qu'il dit. 1 Corinthiens 15, verset 10, il dit ceci. Il dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Il est encouragé à travailler parce qu'il sait que Dieu s'est choisi un peuple. Et donc, c'est une piste d'encouragement que nous devons aussi méditer, parce que c'est là que l'apôtre Paul pousse l'esprit de Timothée. Pense aux élus, pense à ceux que Dieu a choisis dès avant la fondation du monde. Ça veut dire que ton travail ne sera pas vain, que ta souffrance
ne sera pas vaine, qu'il y aura du fruit, qu'il y aura des résultats. La connaissance de l'existence des élus et de leur besoin d'entendre le message de l'Évangile et d'y croire pour être sauvés et entrer dans la gloire est une puissante motivation à endurer aussi les souffrances. Et puis quatrièmement, je voudrais dire un quatrième thème de méditation que l'apôtre Paul propose aussi à Timothée, c'est au verset 11 à 13, de Timothée 2, 11, 13, il dit « Cette parole est certaine, si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. » Et donc, Paul dit ici que pour endurer les souffrances de l'Évangile, il faut aussi se souvenir de la certitude des promesses et des menaces de Dieu. Il faut se souvenir de la certitude de ses promesses autant que de ses menaces. Quelqu'un avait dit que Dieu est fidèle en ses promesses et en ses menaces. Quand il a menacé du déluge, le déluge est venu. Les hommes n'ont pas cru, mais le déluge est venu. Et donc, il dit, Timothée, endure les souffrances parce que Dieu est fidèle dans ses promesses, il est fidèle dans ses menaces. Tu dois te souvenir de la certitude même de ses promesses. Il dit, cette parole est certaine. Et donc, c'est sur la certitude de ce qu'il va dire qu'il interpelle ici Timothée. Il lui dit, si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Il y a à la fois une promesse ici et une terrible menace qui sont contenues dans cette parole. D'un côté, l'acceptation par Dieu de tous ceux qui se sont identifiés, qui sont identifiés dans sa mort et dans sa résurrection, et qui persévèrent. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons avec lui, nous régnerons aussi avec lui. De l'autre côté, ici, un rejet aussi, on pourrait dire, de la part de Dieu pour ceux qui l'auront rejeté. Il dit, si nous le renions, lui aussi nous reniera. Et puis il termine avec la fidélité de Dieu. Il dit, Dieu est fidèle. Si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle. Il ne dit pas ici qu'il va couvrir notre infidélité par sa fidélité. Il dit, c'est comme si ce n'est pas parce que nous sommes infidèles que Dieu devient fidèle. Dieu demeure cohérent avec lui-même. Et donc fidèle à la fois dans ses menaces et dans sa promesse. Et donc, ici, il ne dit pas que le croyant vrai peut ne pas persévérer. Et donc, si le vrai croyant ne persévère pas, il ne régnera pas avec Christ. Les vrais croyants persévèrent. C'est le message biblique. Les vrais croyants persévèrent ici. Ceux qui persévèrent jusqu'à la fin sont les vrais croyants, parce que les vrais croyants persévèrent. L'apôtre Jean dit ceci. Il parle des faux docteurs, etc. et tout cela. Il dit, ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Et ces paroles sont extrêmement claires. Il y aura des personnes qui vivront au milieu des vrais chrétiens, qui se comporteront comme de vrais chrétiens, qui feront une profession de foi, qui seront même peut-être baptisés. Et c'était probablement ce que l'apôtre signale ici. Il dit, ils sont sortis du milieu de nous. D'accord? Mais il dit, ils n'étaient pas des nôtres. Il n'y a jamais eu d'appartenance véritable. Et il ajoute, s'il y avait eu appartenance véritable, il ne serait pas parti, il serait resté. Autrement dit, quand il y a appartenance véritable, on reste. On reste. Et donc, le vrai chrétien persévère. Et l'apôtre n'est pas en train de dire, attention Timothée, tu es un vrai chrétien, et si tu ne persévères pas, tu seras perdu. Il est en train de dire que le vrai chrétien persévère. C'est comme, il n'est pas en train de dire, tu es un vrai chrétien, mais si tu n'es pas mort avec Christ, tu vivras pas avec lui. Le vrai chrétien est mort avec Christ et il peut pas sortir de cette mort. Quand on est mort, on peut pas sortir de la mort. Et donc, quand il a été plongé dans la mort de Christ, véritablement, il est mort. Et donc, il vivra avec Christ. Et quand il dit, si nous sommes morts avec lui, nous vivrons avec lui, il n'est pas en train de dire, tu es un vrai chrétien, mais attention, si jamais tu n'es plus mort avec lui, tu ne vivras pas avec lui. Non, il dit que le vrai chrétien est mort, est identifié dans sa mort et dans sa résurrection avec Christ. Le vrai chrétien persévère. Si tel n'est pas le cas, c'est qu'il n'est pas. S'ils sont partis, c'est qu'ils n'étaient pas des nôtres. Et donc, c'est une parole qui doit nous faire vraiment, vraiment réfléchir ici. Il donne à Timothée ici une certitude pour lui dire, Timothée, attention, je t'encourage à continuer la marche. Je t'encourage à persévérer. Parce que voici la promesse qui est pour ceux qui marchent avec Christ, qui persévèrent. Eh bien, ils vivront avec Christ et ils régneront aussi avec lui. Et puis, après, quand il dit, si nous le renions, lui aussi nous reniera. Bien sûr, il n'est pas question ici de... L'apôtre Pierre, il a renié Jésus, hein, de reniement ponctuel qu'on pourrait avoir. D'autres textes disent ici, je crois qu'il parle un peu de rejet, pratiquement d'incrédulité. Il s'agit ici du fait de ne pas croire en Christ. Celui qui ne met pas sa confiance en Christ sera aussi rejeté. Et celui qui professe croire en Christ, mais qui le renie, il sera aussi rejeté. Parce qu'il n'a pas vraiment cru en Jésus-Christ. Cela rappelle les paroles de Jésus quand il dit, c'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Alors bien sûr, il peut arriver des moments où, on aurait dû prendre position pour Christ et puis on ne l'a pas fait parce qu'on a été intimidé, il y avait beaucoup de monde. Et voilà, et les gens ont dit des choses contre Jésus-Christ et puis nous n'avons pas réagi. Et on s'en veut et on souffre et notre cœur et on dit, mais je vaux rien, c'est pas possible, j'aurais dû. Eh bien, on se repent. Et on demande pardon au Seigneur. Et puis la foi d'après demande le courage de confesser son nom. Mais lorsque l'on demeure continuellement dans ce reniement, ici, tout ce que l'on risque, c'est le reniement de Jésus-Christ. Donc ici, il est, je crois, question de ceux qui n'ont pas vraiment mis leur confiance en Jésus-Christ. Et puis si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Et le texte dit, si nous sommes incrédules, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Et donc, il n'est pas question que, voilà, je peux être infidèle, de toute façon, Dieu est fidèle. C'est pas ce que ça veut dire. Hein? Il y a des gens qui disent, ouais, mais c'est vrai, ils prennent ce verset et disent, mais c'est vrai que nous sommes pas fidèles, mais bon, je suis pas fidèle, mais heureusement, Dieu, il est fidèle. Et donc, je peux, c'est comme si la fidélité de Dieu est un parapluie pour mon infidélité. Ici. Ce n'est pas ça qu'il dit. Il dit que Dieu demeure fidèle. Il rejettera celui qui le renie. Et celui qui est infidèle. Et celui qui est un véritable croyant, qui est mort avec lui, qui persévère, eh bien, régnera avec lui. Et il est fidèle pour maintenir cela. Parce qu'il ne peut se renier lui-même. Il est cohérent avec tout ce qu'il a dit dans sa parole. Et il n'effacera pas quelque chose par quelque chose, une chose qu'il a dite par quelque chose d'autre. Toute sa parole va se réaliser. Et l'apôtre Paul dit à Timothée, Timothée, endure les souffrances de l'évangile et souviens-toi de la certitude des paroles de Jésus-Christ, de ses promesses ainsi que de ses menaces. La persévérance dans la souffrance a une récompense. C'est pas que tu seras sauvé si par tes propres efforts tu persévères. Mais il dit, mais cette persévérance est la part du chrétien. C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui la donne, qui la permet. Et au bout de cette persévérance, eh bien, il y a le règne avec Christ. Et cela vaut la peine de souffrir. Souffre avec moi pour l'évangile. Endure les souffrances de l'évangile en te souvenant de Jésus-Christ. Souffre avec moi pour l'évangile. Endure les souffrances de l'évangile en te souvenant que la parole de Dieu ne pourra jamais être liée, même si les serviteurs sont liés, même s'ils sont tués, même s'ils sont torturés. Souffre avec moi pour endurer les souffrances de l'évangile en te souvenant du dessein bienveillant de Dieu, des élus qu'il a choisis et de la nécessité qu'ils entendent la parole. Cela doit t'encourager parce que ton travail ne sera pas vain. Puis souffre avec moi pour endurer les souffrances de l'évangile en te souvenant de la certitude des promesses de Dieu et des menaces aussi qui pèsent sur ceux qui le renient. Que le Seigneur nous aide dans notre marche. Nous sommes dans un espace un peu particulier, privilégié même, hein, où nous n'avons pas besoin de nous cacher pour nous rencontrer, mais je crois que malgré cette facilité, nous avons quand même la difficulté à propager la parole de Dieu. Peut-être nous avons des craintes et nous avons besoin de cet encouragement que Paul, chacun, moi le premier, donne ici à Timothée, d'accepter les souffrances pour la cause de Christ, en ayant Christ sous les yeux, en ayant la puissance de sa parole sous les yeux, en ayant son choix d'élection sous les yeux et en ayant la certitude de ses promesses aussi sous les yeux comme objet de méditation. Que le Seigneur nous aide pour la gloire de son nom, prions. Notre Dieu, nous te remercions encore pour ta parole qui est la vérité et pour cette exhortation de l'apôtre Paul à Timothée qui est une exhortation pour nous aussi dans les circonstances que nous vivons. Nous savons que nous sommes dans les derniers temps aussi, un temps où les hommes aiment le plaisir plus que Dieu et où nous sommes tentés aussi de céder au plaisir, au confort et où nous sommes tentés de refuser parfois la difficulté, les souffrances qu'implique la propagation de l'évangile. Donne-nous, Seigneur, d'appliquer ces vérités et ces thèmes de méditation à nos cœurs pour que nous puissions avancer et souffrir, prendre notre part aussi de souffrance, qu'elle soit grande ou qu'elle soit moins grande dans ton œuvre. Nous te prions ces choses en ton nom et pour ta seule gloire. Amen.